La paracha de Vayikra ouvre le troisième livre de la Torah qui porte le même nom. Et nous commencerons par un court résumé de la première paracha de ce livre, après quoi, eh bien, on essaiera de comprendre l'originalité du livre de Vayikra par rapport aux autres livres du Chumash, de la Torah. Et également, nous essaierons de comprendre l'hésitation, enfin non pas l'hésitation, mais le silence de Moshe et son refus initial d'entrer dans le Mishkan qui était terminé. Cette paracha de Vayikra marque une étape très importante dans la Torah. Nous avons eu les deux premiers livres, Bereshit et Shemot, qui ont contenu le récit de la création du monde, avec l'histoire d'Adam, de Chava, des premières générations, le tour de Babel, le déluge, et la naissance du peuple hébreu avec Abraham et les patriarches. Le livre de Shemot nous a montré que cette famille est devenue un peuple dans Mitzrayim, pendant la descente en Mitzrayim. On a eu un peuple, on a eu le don de la Torah, toute une série de mitzvot ont été données à l'intérieur du livre de Shemot, mais ce qui est original, c'est que ces lois ont été données dans un fil de récit. C'était une narration. Ce qui est différent avec le livre de Vayikra, qu'on commence aujourd'hui, que l'on appelle aussi en traduction Lévitique, eh bien, ce livre contient très peu de récits. Il y a seulement, dans tout le livre, dans toutes les parachas de ce livre, on a seulement trois grands blocs narratifs. L'un d'eux, c'est le récit dramatique de la mort des deux fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger non commandé par Hachem dans le Mishkan. Et bien sûr, la sainteté du sanctuaire exige une obéissance absolue. Il y a deux autres thèmes narratifs, le cas d'un blasphémateur, un homme fils d'une Israélite et d'un Égyptien ont blasphémé le nom divin, et donc on a une petite narration à ce propos dans le chapitre 24, et nous avons aussi le récit du bouc émissaire dans son contexte rituel. Ce n'est pas un vrai récit au sens classique, mais c'est une sorte de rituel dramatique qui est décrit comme un événement annuel. Voilà. À part ça, eh bien, on n'a pas trop d'histoire à raconter parce que c'est le service du temple qui est en scène, j'allais dire. Le livre commence au moment où la construction du Mishkan est terminée. Vous vous souvenez que depuis la paracha de Teruma, le livre de Shemot nous a raconté la construction du Mishkan et on y est revenu dans plusieurs leçons précédentes. Mais tout est prêt maintenant. Et on attendrait quoi? On attendrait que Moshe rentre et commence le service du Mishkan. Eh bien, pas du tout. Il attend. Il est là devant le Mishkan et il ne rentre pas, il attend. Ce livre va concerner en fait le service du temple et donc des sujets particulièrement saints. On constate qu'en Afrique du Nord notamment, mais dans d'autres communautés également, les jeunes enfants commençaient l'étude du Chumash par Vayikra. On peut considérer que c'est un peu exagéré. On pourrait commencer par des histoires de Abraham, de Jacob, de Moshe. On pourrait raconter des histoires, des récits, des narrations. Eh bien non, le jeune enfant qui est en train de couvrir le livre du Chumash pour la première fois, on commence à lui faire étudier ça. Ben on lui fait quoi? Étudier Vayikra. Eh bien, le Chachamim m'explique qu'en fait, les jeunes enfants sont sans aucune faute. Ils sont donc plus que d'autres en mesure d'aborder ces sujets, comme dit un Midrash, Puisque les jeunes enfants sont purs et que les sacrifices sont purs, que ceux qui sont purs viennent s'occuper des choses pures. Voilà donc pourquoi ce sujet était étudié par les enfants. En fait, on a là une paracha et celles qui suivent d'ailleurs, qui sont plus difficiles à commenter que celles des deux premiers livres. On a non seulement on n'a pratiquement pas de narration, mais en plus, les sujets exposés sont souvent très techniques. Les sacrifices, les korbanot sont longuement détaillés et, outre leur technicité, on pourrait se dire aussi que, après tout, ce n'est plus d'actualité et même on peut réfléchir sur la notion de sacrifice. Eh bien, Rabbi Yehoshua Rahamim Dufour, qui a pendant des années maintenu un site web extraordinaire qui s'appelle Modia sur l'explication de toute une série de tout le Chumash et notamment les Parashas mais même le Talmud, eh bien, il nous met en garde. Je le cite. Le thème des sacrifices est un exemple typique des erreurs que nous pouvons faire dans l'étude si nous n'étudions pas avec les maîtres de la tradition. En effet, poursuit-il, il est aisé de projeter des idées préconçues à ce qui pourrait être des rites, qui m'auraient semblé être des rites archaïques. Cela ne ferait que traduire en fait notre ignorance et notre légèreté. L'étude de la Torah exige de nous une réflexion basée comme une réception de ce que la Torah enseigne. Et il y a ici ce mot fondamental. On nous dit qu'en général, on interprète la Torah. Les commentateurs, les mefarshim, sont traduit cela par l'interprétation de la Torah. Mais c'est un faux sens. Parce qu'on n'interprète pas la Torah, ce n'est pas une chanson qu'on va interpréter plus ou moins d'une manière aiguë, plus ou moins d'une manière rapide, plus ou moins d'une manière jolie, agréable. Non, ce n'est pas, non, nous n'avons pas un rôle dans l'interprétation du texte. Nous devons simplement transmettre les enseignements de nos maîtres. Donc, transmettre et pas interpréter. Vous voyez? Et si l'on dit parfois interpréter, le sens de ce mot, c'est en fait transmettre. On ne marche pas selon sa tête. Ou alors, c'est une recherche de sens qui, après, va voir si notre recherche correspond ou non au Mefarshim, au commentateur. En fait, nous attendons d'une étude de la Torah une réception de ce que la tradition enseigne. On n'attend pas que un Doresh ou un commentateur se mettent à donner ses idées. Ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est on doit se mettre derrière les maîtres, on doit les citer, on doit comprendre ce qu'ils disent et c'est cela transmettre. Or, justement, à propos des sacrifices, le risque est grand que celui qui travaille avec sa tête à lui, au lieu de transmettre la leçon de nos maîtres, va se dire, bon, ah, tout ça, c'est un peu archaïque, ça n'a plus cours, il n'y a même plus de temple, et donc, en plus, c'est un peu sanglant, de tuer des bêtes, ça ne va pas du tout. Donc, vous voyez, quelqu'un qui marcherait uniquement avec ce qu'il a, lui, comme modèle, eh bien, il est complètement dans le faux. Ce n'est pas cela, la Torah. La Torah, c'est comprendre ce que disent nos maîtres. Eh bien, ces parachas, justement, méritent la plus grande attention. Les korbanot, aujourd'hui, ne sont plus possibles, mais leur étude rapproche d'Hachem autant, nous disent nos maîtres, que ce que pouvaient le faire autrefois les offrandes faites au Beth-Amikdash à Jérusalem. Donc, j'ai le projet d'enregistrer un autre court sur justement les sacrifices et leurs fameuses dimensions selon le Pardès. Mais là, on n'aura pas tout le temps aujourd'hui, donc j'en ferai, avec l'aide de Dieu, un cours numéro 2 que je posterai directement sur la liste. Alors, voilà donc tout ce sujet de Vaïkra pratiquement sans narration. Eh bien, le récit biblique va reprendre, mais dans le livre suivant. Dans le livre Bamidbar, où l'on verra les enfants d'Israël quitter le Sinaï et etc. Donc on aura encore du récit dans le livre suivant, mais pour l'instant, nous sommes dans un sujet extrêmement législatif. Et on peut se poser déjà une question: comment se fait-il que Moshe, devant un Mishkan terminé, eh bien, ne rentre pas. Il attend. En fait, il considère qu'il ne peut pas rentrer comme cela. On va venir tout à l'heure pour l'expliquer. Bon, en deux mots, comme il n'a pas pu s'avancer comme ça au niveau du buisson ardent, alors peut-il rentrer comme ça dans un Mishkan? Bon, on reverra tout ça tout à l'heure. Mais c'est il a attendu et et nous avons ici un petit indice, c'est que ce mot Vayikra, sa dernière lettre, c'est un Aleph tout petit. Alors qu'il n'y a pas de majuscule dans la Torah, il n'y a pas de grandes et de petites lettres. Je veux dire, on n'est pas obligé en écrivant, comme quand on écrit en italien, en français, en anglais, un début de phrase a une majuscule. Eh bien, non. En hébreu, il n'y a pas de majuscule en début de phrase. Toutes les lettres ont la même hauteur. Et c'est ainsi que les grandes ou les petites lettres dans la Torah sont des particularités, scripturales qui interrogent. C'est en gros, c'est pas tout à fait nécessaire puisqu'on n'a pas de majuscule ou de lettres plus petites. Cela est un signal qui mérite d'être compris. Dans son introduction à la Mishnah, Rambam Maïmonide enseigne les lois de la Torah orale, bien que transmises par Hachem au Sinaï, sont dans la grande majorité des cas en allusion, en remèze, dans la Torah écrite. Cela explique que dans la Guémara, les Amoraïm demandent souvent la source de ces allusions. Ces règles permettent des développements halakhiques. Est-il utile de rappeler que seuls les rabbins décisionnaires sont habilités à formuler des déductions? Vayikra, Dieu appelle Vaïkra, le sens c'est et il appela. Et il appela. C'est Dieu qui appelle Moshe, conformément à l'attente de ce dernier. Et ce seul fait démontre, fonde la validité de l'attente de Moshe. Puisqu'il a été appelé, c'est qu'il avait raison de ne pas entrer. Nous avons Rabbi Ishmael qui dit: la Torah s'explique par les 13 règles d'interprétation suivantes, l'as fortiori, etc., etc. Cet enseignement porte en lui quelque chose d'extraordinaire. Il vient nous dire que la Torah porte un enseignement explicite, mais aussi un enseignement que les rabbins peuvent déduire en appliquant des règles d'interprétation précises. C'est ce que l'on a appelé commodément ici, depuis les leçons précédentes, la boîte à outils de la Torah écrite. On ne rentre pas dans la Torah écrite en croyant simplement le sens littéral des mots, souvent très mal compris par les traducteurs, mais au contraire, on doit... Eh bien, on sait qu'il y a toute une série de règles d'interprétation pour mieux approcher la Torah écrite. En un mot, en une formule, la loi, la Torah, ça veut dire la loi, contient plus que la loi. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième Torah, la Torah orale. qui nous permet en plus de comprendre la Torah. Donc, la loi divine, par définition, elle est parfaite, elle est indépassable. Et cela pose un grand problème, une grande difficulté pratique, parce qu'on sait bien que toute loi n'a de sens que si elle s'applique à une société, évidemment. La loi en soi ne doit s'appliquer à une société précise, concrète. Et les parlements du monde entier élaborent des principes de droit, promulguent la loi. Et bien sûr, ils adaptent la loi aux sociétés. Par exemple, la loi française a longtemps interdit complètement le divorce. Et c'était interdit à une époque, mais la loi un jour a dit, bon ben, enfin, les législateurs ont dit, non, c'est ça correspond plus à notre société, il faut l'autoriser. Et ce qui était interdit à une époque peut devenir permis avec l'élaboration d'une loi nouvelle. Donc, les sociétés en évoluant, sans jugement de valeur, hein, on n'est pas en train de dire que la nouvelle loi est bonne ou mauvaise, avec des jugements moraux. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est simplement de voir que des lois peuvent être supprimées, modifiées, de nouvelles lois contraires peuvent surgir. Et avec la Torah, ce n'est pas possible, c'est la parole d'Hachem. On ne peut pas supprimer. Elle est valide tout le temps. Et du coup, on a cette difficulté par rapport à l'évolution des sociétés. Ce genre d'adaptation est impossible avec la loi communiquée une fois pour toutes au Sinaï, dans une perfection absolue. Donc, une loi promulguée par Dieu ne peut être modifiée par les hommes. La Torah n'est pas sujette à des revirements de situation. Et elle ne peut approuver des changements de valeurs ou de comportements. Cette situation aurait pu être particulièrement difficile et même impossible à gérer pour le judaïsme, parce que la Torah aurait été considérée comme un ensemble fermé, daté, perdant toute souplesse par rapport à l'actualité et divergeait tellement de l'évolution des sociétés et des contingences historiques, que, eh bien, pensons au droit de l'ancienne Mésopotamie, au droit romain, et ceux de tant d'autres peuples qui ont disparu. Les lois en question n'ont pas tenu face à l'évolution des sociétés. Donc, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer de prime abord, la loi divine infinie, comme son auteur, porte en elle l'indispensable ouverture, apte à affronter toutes les situations, de tous les temps. Concrètement, comment faire pour que des décideurs, les poskim, les rabbins décideurs, pas les rabbins qui informent, voilà la loi, non, ceux qui disent, voilà la loi, comment elle s'applique? Eh bien, comment introduire cette souplesse? Eh bien, des poskim peuvent prendre des décisions sociales inédites. Comment, bien sûr, eh bien, en appliquant, au fond, tout l'enjeu de ce premier mot, Vayikra, c'est-à-dire que Moshe a appliqué une méthodologie et des règles d'interprétation venant de la Torah orale, et c'est ainsi qu'il est parvenu à comprendre en profondeur la Torah écrite, et de la même manière, les poskim analysent la Torah écrite et avec la fameuse boîte à outils de l'interprétation, eh bien de la compréhension, du sens, ils arrivent à formuler des lois. Et on a toute une série d'ouvrages qui s'appellent Shelot Utshuvot, c'est-à-dire des questions et des réponses, où des rabbins, on leur a posé une question et ils répondent. Mais ils ne répondent pas en disant, voilà moi ce que je pense que l'on doit faire, parce que le temps a changé, hein, on est dans d'autres circonstances historiques, les sociétés ont été modifiées, nous allons donc maintenant penser ça. Non, pas du tout, c'est impossible. Dans le judaïsme, ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre une loi contraire à la précédente, contraire à celle qui nous vient de Hachem. Et donc, quand ils font leur réponse, soit ils répondent avec un bagage, je dirais, tout a déjà été promulgué, compris, analysé, etc. Donc il n'y a pas de nouveauté, il donne une réponse. Voilà ce qui a été déjà décidé par nos maîtres. C'est une réponse simple en quelque sorte. Mais parfois, les poskim ont à aller beaucoup plus loin. Ils doivent prendre une décision qui est une décision nouvelle. Et là, ils vont s'appuyer sur la compréhension fine du sens de la Torah grâce aux boîtes à outils disponibles. Et ainsi, on a eu tout au long de l'histoire juive des chidushim, des nouveautés, comment comprendre ceci ou cela, pas seulement dans le sens d'un commentaire pour comprendre un verset, mais aussi même au niveau de Hidushim dans le domaine donc halakhique, mais strictement halakhique, strictement dans l'orthodoxie juive, bien entendu. Cela a permis notamment, avec l'application des règles fixées par Hillel l'Ancien, par Rabbi Ishmael, par Rabbi Yossi à Galilée et d'autres, qui ont démontré combien est vaine l'image qu'ont certains d'un judaïsme attardé dans un passé révolu. Loin de correspondre à un droit appliqué à la société juive, de l'Antiquité, ce droit biblique, ce droit rabbinique, unique au monde, a une souplesse insoupçonnable. Les règles permettent aux rabbins, par leurs interprétations innovantes, d'actualiser la lecture de la loi en pleine conformité à la tradition. Eh bien, ce droit est resté vivant jusqu'à nos jours. Ce n'est pas le cas pour le code d'Hammurabi qui a disparu, pour le droit romain qui a disparu, pour le code civil de Napoléon même, qui a été remanié tant et tant de fois depuis le début du XIXe siècle que l'on a affaire à un droit nouveau. J'ai cité tout à l'heure le cas de la loi sur le divorce. Bien entendu, ce n'était pas du tout dans le code civil de Napoléon. Mais ainsi, pouvait-il en être autrement avec un droit fixé non pas par un monarque ou par un despote, mais par le roi des rois, le saint béni soit-il? Alors, dans la Torah, on sait que rien ne vient au hasard, aucun détail ne doit être négligé, tout a du sens. Quand on ouvre un roman, bon, l'auteur a écrit ça, il aurait pu écrire autre chose. On a beaucoup de synonymes, après tout, qui sont très 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 proches, et peut-être aurait-il pu utiliser un autre mot. Ce n'est pas le cas dans la Torah. On n'utilise pas tel mot ou tel mot en fonction de l'embellissement du style. Non. Tout a du sens, y compris un point. Tout a du sens. Donc, pour certains passages descriptifs ou généalogiques, quand on dit un tel, fils d'un tel, etc., on va dire, bon, ok, d'accord, mais allez, allons plus vite. Non, tout cela a du sens. Même des noms, un tel, fils d'un tel, eh bien, on trouve beaucoup de choses à l'intérieur de ces noms. Tout communique du sens. Et on peut avoir des lecteurs disons, qui déprécient ce texte saint. Je pense par exemple à Kant, dans la religion, dans les limites de la simple raison. Eh bien, bon, ils estiment que, enfin, c'est des choses qui sont un peu du passé. Le Zohar HaKadosh enseigne: malheur aux coupables du monde qui ignorent et ne prête pas attention aux paroles de la Torah. Et s'il la regarde, n'ayant pas d'intelligence, les paroles de la Torah paraissent à leurs yeux comme des paroles vides, sans intérêt. Et cela parce que eux sont vides de savoir et d'intelligence. En vérité, toutes les paroles de la Torah sont hautes et glorieuses, de chaque parole sans exception. Il est dit, elle est plus précieuse que les perles. Aucun joyau ne l'égale. Donc, dans la forme, tout détail mérite attention. Il y a une relation étroite entre on dirait, je ne sais pas si c'est trop correct, mais on pourrait dire la stylistique et la sémantique. entre la manière d'écrire pour embellir la forme et le sens qu'il y a derrière tout cela. Pour la Torah, toute la forme du texte nous apporte quantité de sens. Ainsi, pour cette présente paracha, la dernière lettre du premier mot est remarquable, Vayikra, avec un aleph de petite taille. En hébreu, comme on l'a dit, cela n'existe pas, sauf en tant qu'exception, en tant que particularité scripturale qui va nous apporter du sens. Quel est donc le sens de cette petite lettre? Pour les Mekoubalim, cette anomalie, en quelque sorte, est l'indice d'une certaine restriction afférente à l'appel divin. Les deux premiers appels, on avait un appel au buisson ardent, un autre appel au Sinaï. Ces deux appels spécifiaient que l'appel émanait de la majesté divine. Ici, rien du tout. On n'a pas, et Dieu dit à Moshe, je t'appelle. On n'a pas ça. On a Vayikra, tout simplement. Et il appela. Cet appel intervient après le péché du Régel, du veau d'or. Ainsi, cet appel n'a plus le même caractère majestueux que ceux qui dataient de l'époque antérieure à cette grosse infraction. Bon, ça c'est un sens, une tentative d'explication, une explication, puisque c'est transmis par nos maîtres, et Baal HaTourim nous a expliqué cela autrement. Moshe était trop modeste pour se prévaloir de l'affection et de l'estime divine à son égard. Il aurait bien voulu écrire même cette lettre, ce mot, sans aleph. Mais pour obéir à l'ordre divin, il a écrit le aleph qu'on lui a ordonné d'écrire. La Torah, c'est la Torah de Hachem, donc il l'a écrit, mais avec une petite graphie pour le aleph, par modestie, en quelque sorte. Par contre, pour Rabbi Israël, pardon, le petit aleph de Vayikra fait allusion au mot kar, froid. Vayikar. Parce que Moshe avait appris qu'il n'était pas Cohen, et cela l'avait un peu déçu. Mais lorsqu'ensuite Dieu s'adressa à lui avec le verbe Vayikra, que l'on utilise d'habitude pour les anges, il comprit que s'il ne servait pas dans le temple terrestre, il était destiné à servir dans le temple céleste, comme un ange. Et il est en écrit en effet, Vayikra, Ve'amar, Kadosh, Kadosh, etc. Donc, voilà des explications sur ce petit aleph. Et une autre explication rejoint ce que l'on a expliqué tout à l'heure sur les enfants. C'est que, eh bien, le petit aleph fait allusion aux enfants qui commencent leur étude de Torah par ce passage. Voilà donc, je vois que l'heure a défilé. Voilà donc le sujet que l'on a présenté. La sainteté du tabernacle étant permanente, Moshe a déduit qu'il était à plus forte raison que sur le Sinaï ou que près du buisson ardent, nécessaire d'attendre une convocation. Les avots de Rabbi Nathan, donc un texte qui date des Amoraïm, ils expliquent que le premier verset de la paracha nous fait savoir que Dieu a accepté le raisonnement de Moshe. Et voilà donc ce sujet. Et de tout cela, nous voyons que d'abord, nous tirons deux conclusions. La première, c'est que les interprétations de nos poskim s'appuient sur la Torah. Et puisque Dieu a appelé Moshe, eh bien, Dieu a validé le raisonnement qu'il avait. Donc, on a une sorte de garantie dans cette validation. Et l'autre chose, c'est que bien entendu, la forme est essentielle, mais que cette forme constamment véhicule du sens. Le sujet de la paracha, c'est essentiellement le thème des sacrifices. Bien, on pourrait se dire que les sacrifices, ça n'a plus cours aujourd'hui, etc. Oui, mais attention, ils sont remplacés par la prière. Et la prière a valeur de sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, nous pouvons prier ensemble pour la guérison de ce que l'on a cité tout à l'heure en commençant, et également pour la guérison de tous les malades d'Israël. Merci. Je coupe l'enregistrement et nous discutons.